Bonjour, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Bonjour François, pour la deuxième partie.
Eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie.
De cette vie mouvementée.
Une deuxième tranche d'existence.
Une deuxième tranche, et non des moindres.
Et une deuxième vie.
Alors nous en étions où?
On en était à 1977.
Oui.
Je suis chez Datel. À Cramoget, comme je l'avais dit tout à l'heure, oublie de régler les factures des fournisseurs de son chantier des forgés à l'Isle-Adam. Datel donc des gros problèmes d'argent et Datel tombe dans le boisseau du groupe TAG. Et puis moi, je commençais à m'ennuyer un petit peu dans cette haute fidélité ésotérique, dans toutes ces histoires de quadriphonie Mercury un peu vaseuse. Et j'ai l'opportunité, parce qu'il y avait une place qui se libérait, de prendre la direction technique d'une toute petite PME, toute petite parce qu'il y avait en tout 5 ou 6 personnes, qui était au métro Télégraphe à Paris, sur les hauteurs. C'était la société R.E.D. qui fabriquait des matériels pour les studios d'enregistrement. Ils fabriquaient des consoles, ils fabriquaient des consoles et des amplis de puissance.
Quelle notoriété avait cette
ils
entreprise
étaient ils bénéficiaient d'une excellente cote sur les matériels qu'ils avaient développés et ils avaient équipé pas mal de studios de particuliers. On est à une époque charnière. En 77, on est encore sous Giscard. Les radios libres ne sont pas encore là, donc la bande FM n'est pas encore libérée. Mais pas mal d'animateurs des grandes stations de radio comme France Inter, Radio Luxembourg, RTL ou Europe 1 se sont décidés à installer un studio chez eux. Donc il y a pas mal de studios de ces personnes-là qui finalement font des programmes entiers, un peu comme les émissions. Ils se contentent finalement d'amener le bobino directement à la station de radio pour la diffusion. Et le bobino, c'est le résultat final, tout est monté, tout est prêt. Et en même temps, il y a pas mal d'artistes qui commencent à s'équiper avec un studio de prise de son personnel.
À cette époque-là ?
À cette époque-là.
Pourtant, c'était encore délirant comme prix.
Les prix étaient délirants, mais il faut croire que le piratage n'existait pas encore, le piratage sur Internet, et que les artistes devaient finalement gagner pas mal d'argent, suffisamment d'argent pour pouvoir s'équiper avec un studio privé. Donc, j'accepte de prendre ce poste, bien que tout le monde m'ait prévenu, attention où tu mets les pieds. Ça veut dire quoi, attention où tu mets les pieds? Ça veut dire, fais attention, tu as un patron qui est un quasi-caractériel. Et je développe en... Combien de temps ça a duré? J'ai dû rentrer en juillet 77 chez R.E.D., et je les ai quittés en juillet 78, ça a duré un an. Donc pendant cette année-là, j'ai développé une nouvelle famille de tranches de consoles, une nouvelle famille de consoles, avec en particulier des corrections paramétriques. J'ai étudié aussi des amplificateurs de puissance, parce qu'à l'époque, les enceintes actives n'existaient pratiquement pas. Toutes les enceintes dans les studios étaient des enceintes passives, et il fallait donc disposer d'amplificateurs fiables et puissants pour pouvoir les alimenter à un niveau d'écoute convenable. Mais disons que ça n'a pas loupé. Je fais un déplacement en province, et au retour, je suis accusé de tous les maux, d'avoir utilisé le véhicule loué pour le déplacement à titre personnel, d'avoir fait des kilomètres de plaisir avec ce véhicule. On refuse de me rembourser mes frais de déplacement, mes frais d'hôtel, mes frais de restauration, les frais de location de voiture. En plus, j'étais parti avec un collègue. Alors là, donc, c'est la rupture et je suis licencié le 12 juillet 1978. Entre-temps, le 20 juillet 1977, ma deuxième fille était née, donc je me retrouve avec un bébé qui n'a pas encore un an sur les bras et plus de travail. Alors bien entendu, ce monsieur, vu l'énorme dimension du milieu des studios d'enregistrement et de l'audio professionnel en France à la fin des années 70, me fait une réputation d'enfer. Je suis complètement barré dans ce secteur d'activité, il faut donc que je me reconvertisse. Donc je passe des vacances épouvantables.
Oui, ça j'imagine, oui.
Vacances entre guillemets. Et je me souviens quand même que chez Grandin Enseignement, je n'avais pas fait que des laboratoires de langue. Grandin Enseignement était en réalité une branche de Grandin Audiovisuel. Les laboratoires de langue étaient la partie audio, mais il y avait une partie vidéo importante où j'avais aussi mis les mains, j'avais conçu des caméras, j'avais conçu des moniteurs, j'avais conçu des mélangeurs vidéo, j'avais conçu des truqueurs vidéo, donc ce qu'on trouve finalement dans les unités de production de programmes télévisés. Donc je connaissais quand même la vidéo, je l'avais apprise d'une certaine façon sur le tas, mais c'était finalement pas si lointain que cela, puisque j'avais arrêté de travailler dans la vidéo du temps de Datel, à peine 2 ans auparavant. Donc, au mois de septembre, je suis contacté par une personne qui me demande si je veux bien prendre la direction technique adjointe avec lui du bureau d'études d'une société en banlieue parisienne qui est spécialisée depuis de très nombreuses années dans la vidéo industrielle. Cette société était basée à Asnières. Ça s'appelait Inspectronic. Et cette société donc était relativement connue dans le métier parce que c'était l'importateur et le distributeur en France des matériels vidéo industriels et professionnels de Grundig en Allemagne. C'était un accord qui remontait à fort loin, qui remontait à l'immédiat après-guerre, quand Max Grundig avait fondé sa société. Et Max Grundig, dans les années 50, avait rencontré et s'était lié d'amitié avec un des fondateurs d'Inspectronic. Et donc, à la fin des années 70, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'Inspectronic existait et distribuait les produits Grundig. Mais les produits Grundig, ils n'étaient pas distribués, on reçoit le colis sur une rampe et le colis repart sur une autre rampe vers le client. Les produits étaient complètement revus, corrigés, durcis, parce que les principales activités d'Inspectronic, c'était l'inspection de canalisation, les canalisations d'eau, les canalisations de gaz, et c'était aussi une activité dans le domaine du nucléaire, dans le nucléaire civil. C'était l'inspection des tubes des générateurs de vapeur, c'était les inspections dans les piscines de refroidissement, des assemblages de combustible des réacteurs nucléaires. Donc c'était des matériels qui devaient être durcis pour résister aux radiations, qui devaient tenir en température. On utilisait à l'époque des tubes pour faire les caméras, ce n'était pas encore des CCD ou des MOS. Et donc c'était des matériels qui n'avaient, à la sortie d'Inspectronic, pratiquement plus rien à voir avec l'état dans lequel ils étaient rentrés. La seule chose qui, à la limite, avait peu changé, c'était l'unité de contrôle, puisque c'était des caméras qui étaient télécommandées à distance. Mmh. Il n'y a pratiquement que ça qui restait d'origine Grundig. Donc, quand je rentre chez Inspectronic, on me demande de créer une nouvelle génération de matériel, parce qu'entre la première génération de centrales nucléaires et celle qui est en cours de développement, je pense que c'était déjà par Alstom à l'époque, pour équiper le parc électronucléaire français, tout a changé, les tubes n'ont plus le même diamètre, les caméras sont devenues trop grosses, il faut donc créer des caméras beaucoup plus petites, et surtout des caméras qui doivent se rapprocher beaucoup plus des sources de radiation. Donc il y aura à la fois à créer un matériel qui est miniaturisé et qui est durci. Je vais remplir cette mission, donc on arrive à sortir en l'espace de 2 ans, oui. Fin 80, on pourra passer des caméras Grundig modifiées qui faisaient 60 mm de diamètre à des caméras qui font 35 mm de diamètre et qui peuvent maintenant rentrer à certains endroits où les anciennes ne pouvaient pas pénétrer dans l'industrie nucléaire. Alors ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où on maîtrise des caméras qui résistent aux radiations, que l'on peut immerger dans une piscine de réacteur ou une piscine de refroidissement, on maîtrise l'étanchéité, on maîtrise la température, on maîtrise les radiations. Il ne reste donc plus qu'à maîtriser les chocs et les vibrations. On peut mettre le pied maintenant dans le militaire.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Donc c'est ce qui va se passer. Et en parallèle avec les matériels civils à usage donc nucléaire industriel, un Spectronic va donc développer une famille de caméras à usage militaire qui sont plus ou moins dérivées pour certaines de la version industrielle et pour certaines d'autres qui sont complètement nouvelles. Donc à partir des années 80, l'équipe du bureau d'études d'un Spectronic va développer toute une gamme de nouveaux matériels vidéo militaires. Et on va attaquer par les deux bouts, c'est-à-dire qu'on va développer à la fois des caméras et des moniteurs. Alors à l'époque, les écrans LCD, ça n'existe pas, les moniteurs sont à tube cathodique, et les caméras sont à tube de prise de vue. À l'époque, il n'y a que les tubes qui permettent de travailler en résistant aux radiations, mais en 81, on va commencer à travailler sur une toute nouvelle génération de matériel qui n'utilise plus des tubes pour faire les prises de vue, mais qui utilise des capteurs à semi-conducteurs, c'est ce qu'on appelle les CCD. Alors à l'époque, les CCD sont essentiellement d'origine américaine. Ce sont eux donc qui les ont créés en premier. Mais très rapidement, Thomson à Saint-Égrève et Philips à Eindhoven en Hollande vont commencer à développer des CCD bien entendu civil, mais qu'on va essayer d'utiliser, en durcissant ce qui est autour, pour des usages et des applications militaires. Le principal avantage, c'est que ces produits sont beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, et beaucoup plus résistants mécaniquement qu'un tube. Donc on va commencer à développer une famille de caméras à CCD, essentiellement destinées à des activités militaires. Dans un premier temps, ce sera des caméras, par exemple, de tracking, sont des caméras de très haute précision. L'avantage du CCD par rapport au tube, c'est que sa géométrie est totalement figée une fois pour toutes, et que si un objet apparaît à tel endroit sur une image fournie par une caméra CCD, on sait exactement où il est dans le champ optique. Alors qu'avec une caméra à tube, il y a ce qu'on appelle des distorsions de géométrie. Au centre, ça va, mais dès qu'on va vers les coins, on a des phénomènes de tonneaux, de coussins. Et en plus, avec les tubes, il est difficile d'obtenir une résolution constante, c'est-à-dire une finesse d'image constante sur toute la surface de l'image. Le CCD permet de s'affranchir de ces paramètres gênants. Donc très rapidement, on va développer des caméras CCD pour applications militaires. Dans un premier temps, pour du tracking. Et ensuite, pour, par exemple, des conduites de tir, pour des canons anti-aériens, pour des missiles anti-chars, pour des missiles solaires. On fera ensuite des caméras de reconnaissance pour les avions, pour le pod Herald du Mirage F1, dont Saddam Hussein a hérité pratiquement 10 ans avant la France, c'était les F1CR, etc., etc. Et puis, en 86, il se passe quelque chose de très 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 intéressant. La société Inspectronic signe une joint venture avec une société américaine qui est directement impliquée dans tous les programmes militaires de pointe du ministère de la Défense américain, du MOD, puisqu'elle fournit du matériel aussi bien pour l'US Air Force que l'US Navy et le Space Control Center. C'est-à-dire les satellites de reconnaissance, les satellites de détection.
Alors c'est dû à quoi ? On a devancé la technologie américaine à ce moment-là ?
Alors c'est pas qu'on ait devancé la technologie américaine, parce que les Américains à cette époque-là disposent de satellites de reconnaissance que Spot et Helios mettront des années à rejoindre. Si toutefois on les a rejoints, même aujourd'hui, ce qui n'est pas sûr. Mais par contre, les Américains ont pratiquement tout misé sur une façon de faire des images qui est un peu particulière. Ils n'utilisent pas une surface pour faire une image, comme un capteur CCD ou MOS de votre caméscope ou de votre appareil photo numérique. Ils utilisent des barrettes. Alors une barrette, c'est une ligne sur laquelle il y a plein de points, mais il faut donc soit que le capteur se déplace par rapport à la scène, soit que la scène se déplace par rapport au capteur, pour qu'il y ait suffisamment de lignes à la queue-leu-leu l'une en dessous de l'autre, pour former une image. Alors quand c'est un satellite ou un avion, c'est assez facile, parce que le paysage défile sous la caméra, sauf si c'est un satellite géostationnaire. Oui. Pour d'autres applications, on a besoin d'avoir une image intégrale, et non pas une image qui se forme au fur et à mesure. On a besoin d'avoir une image, comme en télévision, une image toutes les 25e ou tous les 30e de seconde. trentième de seconde aux États-Unis. Donc, de ce côté-là, les Américains sont en avance sur les barrettes et sur les barrettes à multiligne, en utilisant donc ce qu'on appelle le push-broom pour faire les images. Mais par contre, en matriciel, alors que les capteurs viennent de chez eux, je répète, hein, mm-hmm. dans un premier temps, ils sont pas tellement emballés, ils ont pas tellement poussé là-dessus. Alors que nous, on est parti dessus donc depuis maintenant plus de 3 ans. Les Américains, à ce moment-là, c'est le début de l'ère Reagan, où on est en plein dans l'ère Reagan et la guerre des étoiles. Et les Américains sont en train de développer un missile de croisière, qui sera célèbre par la suite, qui s'appelle le Tomahawk. Et le Tomahawk possède un système de guidage qui vient d'un principe qui est bête et méchant. Ce n'est pas la peine d'avoir une caméra avec une définition phénoménale, puisque plus le missile se rapproche de son objectif, et plus l'image est précise, mm-hmm. alors que la caméra possède toujours la même résolution. Donc là, les Américains sont tout de suite intéressés par les caméras qu'on a commencé à développer, nous, pour l'armée française. Et on va donc signer une joint venture avec eux. Je vais faire de nombreux stages et séjours aux États-Unis. Et on va faire un transfert de technologie. Parce que la caméra qu'on a développée pour l'armée française, en matière de technologie, est réellement à la pointe. Elle utilise à la fois des hybrides, des circuits hybrides qu'on a fait développer, mais elle utilise des circuits intégrés spécifiques, des ASIC, qu'on a fait développer pour une fortune. L'étude a coûté très cher. Mais cette joint venture avec les Américains permettra d'amortir le coût de l'étude, parce que les Américains le reprendront complètement. Mm-hmm. Fairchild sera... la société américaine s'appelle CAI, passée il y a Chicago Aerial Industries, Recon Optical. Elle est basée dans l'Illinois, pas très loin de Chicago, à 30 miles de Chicago, et ça s'appelle Barrington, la ville où ils sont. Et ils sont en compétition pour le programme du système de guidage terminal du Tomahawk, avec Fairchild L'Oral, qui est un autre monstre aux États-Unis en ce qui concerne les caméras de reconnaissance et tous les systèmes électro-optiques. Donc c'est une collaboration qui va durer plusieurs années, qui va m'occasionner pratiquement en tout 3 ans de séjour aux États-Unis. Ça me permettra de me familiariser avec la vie américaine et de me dire qu'on vit pas mal en France. Je vais faire un aparté, c'était très agréable, j'ai bénéficié d'une atmosphère et de moyens de travail phénoménaux, de collègues extraordinaires, avec un seul problème, c'est que les collègues dans la journée ça va, mais les collègues avec leurs femmes jusqu'à 10h30, 11h le soir, comme seul et unique environnement, tous les jours de la semaine, y compris le week-end, c'est beaucoup plus dur. Et ça, c'est très Parce difficile pour
vivez,
un Français.
Vous viviez en symbiose les uns avec les autres ?
Moi, j'étais dans un motel, en face de l'usine à Barrington. Mais on était tous les soirs avec les collègues de travail, certains soirs avec leurs épouses. J'étais invité chez eux. Je connaissais leur famille, leurs enfants. Et on se retrouvait le week-end pour les matchs de baseball, pour les parties de golf. Alors, toujours est-il que cette belle collaboration a duré assez longtemps, au moins jusqu'en 1995. Lors de mes séjours aux États-Unis, comme j'étais dans le domaine de la défense, j'ai participé à des programmes qui étaient totalement classifiés à l'époque. Toujours dans les caméras spéciales, des caméras très spéciales pour les satellites, des caméras... pour détecter la présence d'intrus et de petits hommes verts dans l'espace. Mmh. Un des programmes s'appelait le Quarter Inch Space Telescope. Le but du programme, c'était de détecter n'importe où, à la surface de la Terre et dans l'atmosphère terrestre, la présence d'un objet de plus de 25 cm, de plus de 10 pouces. Ouf. Donc en principe, c'était tout un réseau de satellites qui était prévu. Je me souviens même plus de combien de satellites il était question. Avec des systèmes optiques travaillant de jour, de nuit, en thermique, en infrarouge, tout ce qu'on veut, en ultraviolet. Il fallait pratiquement détecter un petit pois au milieu de l'Himalaya. Mm-hmm. Bon. Alors, Inspectronic n'est pas resté toute seule très longtemps, parce que on avait un ennemi héréditaire depuis de nombreuses années, qui s'appelait Sofretech, qui était basé à Beson, qui avait pratiquement le même créneau d'activité que nous. Et à un moment donné, Spectronic a eu des difficultés au moment où les programmes militaires français ont commencé à fléchir en matière de financement et de budget.
À partir de quelle année, ceci ?
91-92. On est en ère Mitterrand, hein. On n'est plus sous De Gaulle, on n'est plus sous Pompidou, on n'est plus sous Giscard. Hein.
Ouais.
Et donc, bah, mon Dieu, l'ennemi héréditaire, c'est bien, mais au moins, il y a des synergies.
Mm-hmm.
Donc, dans un premier temps, on va collaborer avec eux. Dans un deuxième temps, bah, l'établissement d'Agnières va déménager à Beson. Donc, on va continuer à travailler dans les locaux de Beson de Sofretec. Entre-temps, il y a une société d'optique française, c'est très intéressant l'optique pour un fabricant de caméras parce que ça lui permet d'avoir des objectifs sur mesure. En particulier quand il faut des optiques qui résistent aux radiations nucléaires, et là il y en a peu qui savent les faire. Donc c'est une entreprise qui s'appelait dans le temps Sombertio. Il y en a qui se souviennent encore des objectifs de projecteurs Bertio, qui est devenu Sopelem, qui est basé à Dijon et qui a aussi donc l'unité de production et une partie des études est à Dijon, et le laboratoire de recherche est à Paris, le laboratoire d'études est à Paris, sur les boulevards des Maréchaux. Et donc, Sopelem va rejoindre, et ça va former un trio, un Spectronics, Sopelem, Sofretec. Donc là, on est en face d'un pôle d'optronique française qui couvre pratiquement tout, sauf la fabrication des capteurs, puisqu'on a à la fois le fabricant des objectifs, le fabricant des caméras, le fabricant des moniteurs, on a le contrôle de toute la chaîne. À l'époque, on a pratiquement un seul concurrent en dehors du groupe. Le fabricant d'optique, c'est les optiques Ingénieux.
Oui.
Et le fabricant de caméras, c'est Thomson, Thomson CSF.
Mm-hmm.
Voilà. C'est pratiquement le seul concurrent en matière de vidéo militaire. Donc ce trio Inspectronics, Sopelem, Sofretec intéresse une autre société qui vient de racheter les activités optiques de Matra, Matra Optique, qui était à Vélizy, qui était spécialisée dans les traitements spéciaux, traitements multicouches, anti-reflets, les filtres optiques, tout ce que l'on veut, une technologie de pointe, hein, et laser. Sopelem aussi travaillait énormément avec les lasers et depuis longtemps. Et donc Sfim rachète ce trio. Et nous voilà rebaptisés Sfim ODS, Sfim Optronic pour la défense et le spatial. Et on déménage de Beson à Vélizy. Et ça, ça se passe en septembre 1995. Alors je suis très content parce que j'habitais antérieurement, très longuement, à Saint-Denis. En mai 1995, pour me rapprocher d'Agnières, j'ai acheté une maison à Agnières, j'ai déménagé. Mmh. Et on nous annonce, en rentrant de vacances, bye bye Beson, déjà j'avais apprécié le déménagement à Beson. Bye bye Beson, maintenant c'est Vélizy. 45 km aller-retour par jour en voiture sur la Nationale 118.
D'accord.
Le plaisir. Donc on déménage à Vélizy, on continue les activités à Vélizy, mais on s'appelle Sfim ODS, mais on n'a pratiquement pas de relation avec la maison mère, Sfim, qui elle est essentiellement à Massy-Palaiseau. Donc il y a deux années qui vont se passer, pas tout à fait deux années qui vont se passer. Donc déménagement septembre 95 et en novembre 96, on m'annonce en provenance donc de la Sfim que bah mon Dieu, Monsieur Stamant, vous n'êtes plus très rentable, du moins dans le domaine de la vidéo. On peut éventuellement vous proposer un bouche-trou au bureau d'études, à la maison mère, à Massy. Donc, je déménage à Massy, ça fait encore des kilomètres en plus.
Mm-hmm.
Et à Massy, bah, au bout d'un certain temps, on me dit, bah, écoutez, monsieur Stamant, finalement, vous n'êtes pas utile du tout au groupe Sfim. Vous nous coûtez très cher. On va se séparer de vous. Alors, j'ai eu énormément de chance, parce que j'ai quand même pu négocier mon départ. Mais en réalité, c'était un plan de restructuration totale qui était en cours, parce que la Sfim était déjà en négociation avec la Sagem pour que Sagem rachète tout le département d'optronique. Sagem était devenu pratiquement le concurrent d'ODS. J'ai cité deux groupes tout à l'heure, c'est-à-dire Thomson qui avait repris Ingénieux, et puis j'ai quand même oublié Sagem. Il faut savoir par exemple que Sagem et Sopelem se partageaient la fabrication et la mise au point des périscopes pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le banc de réglage des périscopes était dans l'usine Sopelem à Dijon. Mmh. Ils travaillaient en collaboration. Et la SAGEM, de son côté, avait aussi un département de vidéo militaire. Bon, toujours est-il que je suis licencié au mois de mai 97, et me voilà licencié à 54 ans, après avoir consacré 19 années, finalement, à la vidéo. Vidéo militaire, vidéo industrielle et vidéo spatiale. Donc, à 54 ans, c'est assez difficile de retomber sur ses pattes. Et j'ai beaucoup de chance à ce moment-là, pratiquement un mois après, au niveau de la cellule de reclassement donc, qui a été mise en place à ASFIM-ODS, je reçois la visite d'un monsieur, aujourd'hui décédé, monsieur Jean-Jacques Juppa, qui vient me voir parce que quand j'ai rempli mon curriculum vitae pour la cellule de reclassement, j'ai quand même mentionné que j'avais une expérience certaine ou une certaine expérience dans le domaine de l'audio professionnel, même si elle remonte à 20 ans maintenant. Et donc ce monsieur est devenu depuis un ou deux ans le gérant d'une société d'électroacoustique d'audio professionnel très réputée, aussi bien en France qu'à l'étranger, qui s'appelle E2A, qui est dans le 91 à Nozay, pas très loin de l'endroit où s'entraîne le PSG, là, comment ça s'appelle ? C'est là où il y a le centre de recherche, à Marcoussi, là où il y a le centre de recherche de la CGE, mais sans aucune relation entre elles. Et donc, il m'explique qu'ils ont des problèmes avec leur directeur technique, qu'ils ont absolument besoin de quelqu'un pour reprendre le bureau d'études en main. Et ils me demandent donc si j'accepte. Alors la situation est un peu paradoxale. Je suis officiellement licencié, j'ai 19 ans d'ancienneté, je touche les ACEDIC. Et on me demande de travailler pratiquement avec une fonction de directeur technique dans une entreprise, mais sans être payé. Parce que je ne peux pas occuper officiellement ce poste de direction technique tant que la personne qui occupe ce poste n'est pas officiellement licenciée. Enfin, j'accepte. Et donc, me voilà encore plus loin. Après Beson, Vélizy, voici Nozay.
Nozay, oui.
Là, c'est très très bien. C'est 72 km par jour. C'est 3 heures de transport, tous les jours. Mm-hmm. Alors, quand je débarque chez E2A à Nozay, c'est là où je m'aperçois du problème. Le directeur technique est une personne à très forte personnalité, mais enfin j'en ai connu d'autres, chez RED et chez Audiomarche. Sa spécificité, c'est d'être totalement sourd à toutes les observations qui proviennent de ses clients. Observations qui concernent la fiabilité, l'ergonomie, comment dirais-je, la portabilité, l'inadaptation de ce matériel. Alors, particularité des matériels de 2A, une durée de vie épouvantablement longue. La seule chose qu'ils ont oublié de mettre, c'est un dispositif d'autodestruction à 5000 heures. Alors, ils ont plusieurs cordes à leur arc chez 2A. Ils fabriquent depuis très longtemps des consoles légères de prise de son, mais d'excellente qualité, qui s'appellent les Quest. Ils ont développé peu de temps auparavant une console de prise de son analogique qui est une Rolls, une Ferrari, qui s'appelle la Endicott, qui est merveilleuse, mais extrêmement onéreuse. À l'époque, c'est pratiquement le même prix qu'une console Studer, ou qu'une Neve, ou qu'une SSL, ou qu'une Harrison. Et ils ont surtout développé des produits portables. Parmi les produits portables, il y a un mélangeur portable à 4 entrées, qui s'appelle la Micromix, dont la conception remonte de mémoire à la fin des années 70, 78 ou 79, et dont les premiers exemplaires, les premiers prototypes doivent dater de 1981. Aujourd'hui, il m'arrive encore, maintenant que je suis chez E2A en pointillé, il m'arrive encore d'en avoir qui me reviennent pour réglage ou simplement entretien. Donc ce sont des produits qui sont toujours utilisés, on en est à 30 ans de leur conception et 27 ans de fabrication. Au tout début des années 90, il y a un nouveau produit d'enregistrement qui apparaît, qui va remplacer le magnétophone à bande et le magnéto à cassette, c'est le DAT. Et Sony a sorti un petit DAT portable qui s'appelle le TCD-D3, qui est très robuste, qui marche très très bien à l'époque. Et le directeur de E2A, Claude Thibault, un des fondateurs, a d'excellentes relations avec Sony France. Et ils se mettent d'accord pour proposer à la clientèle un package constitué d'un préamplificateur stéréo et du TCD-D3, parce que comme tous ces petits matériels portables, à part bien sûr les Nagra, les Stellavox ou certains autres appareils hors de prix, inaccessibles pour le grand public, les entrées de ces appareils ne sont pas du tout adaptées à fonctionner avec des vrais micros et non pas des, des jouets électrés à 30 centimes. Donc c'est un préampli d'excellente qualité qui est conçu en 90-91, qui s'appelle le PSP2. On en est à 18 ans d'existence et ça continue à fonctionner d'une façon merveilleuse. Et il y a des clubs de fanatiques du PSP2 dans le monde entier, dont aux États-Unis, où je crois que ça s'appelle Tape Recorder Review, qui est la secte des adorateurs du PSP2.
Et à quoi c'est dû ça alors ?
Le son. La qualité de son.
La qualité de son.
Alors, je vais quand même revenir. Donc ça, c'était une excellente, affaire commerciale pour E2A, en plus couplé avec Sony. Donc ça, c'est le PSP2. Maintenant, le mélangeur, lui. Alors, le problème du mélangeur, c'est qu'il a été conçu à la fin des années 70, et qu'à la fin des années 70, il est parfaitement accordé, il correspond exactement aux caractéristiques des microphones de l'époque, que ce soit des microphones dynamiques ou des microphones à ruban ou des microphones électrostatiques. Il y a encore peu d'électrets à la fin des années 70. Parfaitement adapté, ça veut dire qu'il est très sensible, mais malheureusement, il sature très vite. Ce qu'on appelle la réserve, ou la réserve en entrée, le headroom en anglais. Et le directeur technique n'a absolument pas voulu prendre en considération l'évolution des microphones électrostatiques qui, entre 78 et 98, ont vu leur niveau de sortie multiplié par 10, 20 ou 50. On se retrouve avec un produit d'une qualité sonore excellente, mais pour lesquels il faut réellement beaucoup de doigté et beaucoup de métier pour pouvoir l'utiliser et bénéficier de ses caractéristiques exceptionnelles. Un exemple, TF1 en a commandé énormément dès le départ, mais à l'époque, la télévision, le son, il n'est pas en stéréo, il est en mono. D'ailleurs, il n'est toujours pas en stéréo partout. Ce qui fait que les potentiomètres de panoramique de cette mixette, TF1 ne sait même pas qu'ils existent. Donc que ce soit sur la face avant, la face arrière, au-dessus, en dessous, pour eux, ça n'a aucune importance. Par contre, comme cette mixette a tendance à saturer très très vite, l'organe le plus important pour eux à placer en face avant, c'est l'organe qui permet de régler la sensibilité des étages d'entrée pour éviter les saturations. Donc E2A, pour TF1, va fabriquer des versions spéciales où les panpods sont sur le côté et où les trims de sensibilité d'entrée sont en face avant. Alors, sur ce genre de matériel où tout est en composants conventionnels, avec bien sûr quand même quelques intégrés qui maintenant enfin ont fait leur place dans l'audio professionnel, on peut tout faire, c'est uniquement une question de bout de fil, de câblage. On déplace un organe, on le met autre part, au lieu d'un fil de 3 cm, on met un fil de 15 cm. Voilà. Mais par contre, la Micromix, elle, en 20 ans, elle n'a toujours pas bougé. Il faut donc faire autre chose. Donc, en 97, je commence par organiser des réunions avec les services techniques de TF1, toujours actuellement sous la direction de M. Muller, et les services techniques de France 2. Et on parvient à une sorte de miracle qui s'appelle un cahier des charges commun entre TF1 et France 2 pour la conception et la réalisation d'un nouveau mélangeur portable pour équiper donc ces chaînes de télévision. On aboutit à une définition commune assez rapidement, mais la suite des événements viendra un petit peu rafraîchir l'atmosphère. Alors, en même temps, le directeur technique précédent donc, avait commencé à développer un successeur pour son PSP2, qui était déjà baptisé PSP3, et qui, lui, donc, tenait davantage compte de l'évolution de la sensibilité et du niveau de sortie des microphones. Par contre, disons qu'il était difficile de fabriquer d'une façon industrielle rentable de la manière dont se présentait le prototype dont j'hérite. Donc le prototype est entièrement refondu et avant qu'il y ait de gros problèmes financiers en juin 98 chez E2A, on a quand même réussi à lancer une première tranche de 20 machines, dont plus de la moitié ont été livrées aux États-Unis, entre autres à Posthorn Recordings, qui est le distributeur aux États-Unis donc des produits E2A. Et Posthorn Recordings est connu comme le Loublon aux États-Unis à cause de son propriétaire Jerry Brook, qui depuis 25 ans distribue entre autres aussi les Microphone Shops. Toujours est-il qu'à la suite de difficultés financières, E2A est en faillite en juin 1998. Et à partir de juin 1998, toute une kyrielle de repreneurs plus ou moins farfelus va se présenter pour essayer finalement de reprendre E2A, qui bénéficie d'une excellente réputation tant hexagonale qu'internationale, pour une bouchée de pain. Ben malheureusement, ça ne pourra pas se faire, il n'y aura pas de repreneur sérieux. Et donc moi, je passe des vacances épouvantables, bien entendu, il n'y a plus d'activité. Et en octobre, ça doit être fin octobre 98, la faillite est transformée en liquidation.
Bien, nous allons nous arrêter quelques minutes et revenir.
Merci.
Autre radio, autre culture.